Bien acheter, c'est intéressant, il faut savoir le faire. Mais bien intégrer, c'est encore plus évident. La trajectoire que vous allez créer ensemble, elle est beaucoup plus importante dans la création de valeur future que les 5-10% que vous allez optimiser au moment de l'acquisition.
Il faut réussir à vendre aussi ce projet à un peu tout le monde.
Exactement. Il faut aussi vendre ça à ses investisseurs existants.
Ça tire dans tous les côtés, en fait.
C'est important de savoir bien vendre quand on est financier.
80% de mon temps, c'est hors du bureau, quoi. Je suis en train de discuter avec tout le monde, sinon ça marche pas.
Le directeur financier derrière son Excel, ça fonctionne pas.
C'est fini.
Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui pour une nouvelle masterclass. Je suis avec un invité qui s'appelle Séverin Henry, qui est, on va dire, presque l'ancien Head of Finance de Conto, mais t'as pris des nouvelles fonctions depuis un certain temps qu'on parlera aussi dans cet épisode. Pour te présenter rapidement Séverin, pour te donner la parole avant, eh bien, toi tu bosses chez Conto, on pourrait appeler comme un compte pro en ligne, c'est comme ça, on pourrait le qualifier.
Absolument.
Conto, en quelques chiffres, c'est 450 000 clients, répartis dans 4 pays, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, vous êtes 1400 personnes. Toi, tu as intégré Conto en 2021, vous étiez 6, maintenant vous êtes à peu près une équipe de 30 personnes en direction financière. Une nouvelle CFO est arrivée dans le groupe depuis à peu près 6 mois, ce que tu me disais un petit peu en off. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais comprendre un peu comment on structure une team finance et comment la team finance, elle évolue aussi en fonction de la croissance de l'entreprise, parce que vous êtes qualifié d'une scale-up, vous avez levé plus de 600 millions. Et donc, du coup, on a plein de choses à apprendre sur ce sujet. Et notamment de ton histoire et ton parcours. Merci beaucoup, Séverin, d'être là sur le podcast Les Geeks des Chiffres.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ton invitation. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et pouvoir effectivement vous partager mon expérience, mon histoire chez Conto et puis précédente, et puis vous raconter un petit peu et j'espère susciter quelques idées, quelques vocations, je sais pas, mais voilà, pouvoir vous partager un petit peu tout ça dans les minutes qui viennent.
Alors, merci beaucoup. Du coup, en faisant un peu le l'analyse de ton parcours, tu as quand même bossé d'abord en M&A, donc en transaction, enfin dans cette activité. Tu as bossé également chez Uber avant d'arriver chez Conto. Est-ce qu'on peut faire un peu cette rétrospective et qu'est-ce qui t'a amené déjà dans cette première partie de ton histoire, dans le M&A? Qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite?
Ouais, effectivement, j'ai démarré ma carrière en 2010 en banque d'affaires chez BNP Paribas, donc surtout sur les opérations de M&A. Alors pour la petite histoire, je m'étais dit j'ai fait une année de césure en école de commerce et je m'étais dit je vais faire les deux trucs que tout le monde fait et parce que je suis sûr que j'ai pas envie de faire ça plus tard, mais comme ça au moins j'aurais un peu fait ça. Donc j'ai commencé par faire 6 mois d'audit chez KPMG et ensuite 6 mois de banque d'affaires. Et puis malheureusement j'ai attrapé le virus de la banque d'affaires et j'y suis resté en me disant si je démarre pas là-dedans, je vais le regretter. J'avais trouvé une sorte d'adrénaline dans ce métier-là qui m'a énormément plu et je me suis dit je me lance et puis on verra bien ce qui se passe après. Il y avait pas d'ambition à très très long terme. Alors effectivement, ça s'est confirmé assez vite parce que je me suis rendu compte rapidement que rester du côté conseil, ça allait être trop frustrant pour moi, que j'avais besoin d'être plus proche de la prise de décision, plus proche de la réalité opérationnelle. Et donc, j'ai construit ensuite la suite de mon parcours pour me rapprocher du terrain, de la prise de décision et pour pouvoir être un vrai soutien du business.
Alors, concrètement, quand même, le M&A, c'est quoi un peu ce métier? Si on peut un peu le vulgariser, concrètement, qu'est-ce que tu faisais un petit peu au quotidien? Et quels sont les grands enseignements que tu en as retirés? Parce que généralement, on bosse beaucoup dans ce genre d'activité et souvent, d'un point de vue intellectuel, ça grandit très vite parce qu'on apprend quand même pas mal de choses.
Exactement. Alors, si on essaye de dire à quoi ça correspond, le M&A, en tout cas, qu'est-ce que fait une banque d'affaires? Une banque d'affaires, elle essaye de faciliter des transactions entre entreprises pour permettre le rachat, la vente, la fusion d'entités. Donc, il y a énormément d'entreprises en France, il y en a un peu plus de 4 millions. Beaucoup sont des entreprises familiales et le cas d'usage principal du M&A, ça reste quand même la transmission d'entreprise à la fin d'une génération ou un entrepreneur qui, après avoir passé 5, 10, 15, 20, 30, parfois plus, années à construire son entreprise, il n'a pas forcément... un fils, une fille, quelqu'un ou alors même au sein de l'entreprise un manager qui est capable de prendre son rôle et donc il a envie de la céder. Le banquier d'affaires est là pour faciliter cette transmission. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est que c'est des opérations qui arrivent pas très souvent dans la vie d'une entreprise. Alors évidemment, sauf dans les grands groupes du CAC 40, qui ont du coup des équipes assez bien staffées, et c'est des opérations donc qui sont rares, qui sont très spécifiques, et sur lesquelles il faut être bien accompagné pour être sûr d'en tirer la meilleure valeur, à la fois à l'achat et à la vente. Et donc le banquier d'affaires, il est là pour faciliter la discussion, faciliter la négociation et faciliter la transmission des entreprises. Alors après, pourquoi ? Parce que la deuxième question que tu disais, c'est pourquoi est-ce qu'on démarre là-dedans et ça fait grandir assez vite ? Oui, c'est vrai, puisque au fond, là, même si on est tout jeune, en fait, on est sorti d'école, j'avais à peine, je sais pas, 24 ans, et on se retrouve très vite exposé en fait à travailler directement avec des top managers, des entrepreneurs, des gens qui ont monté des entreprises, qui ont du coup beaucoup d'expérience, et puis à regarder un petit peu, pas simplement les aspects financiers, mais vraiment on regarde le business et l'activité de l'entreprise sous toutes ses coutures pour pouvoir la présenter de la bonne façon, pour pouvoir négocier le prix de la bonne façon. Donc on va regarder à la fois les finances, on va regarder l'activité opérationnelle, on va regarder les aspects de ressources humaines, on va regarder les aspects juridiques. Et donc, on se forme cette vue un petit peu à 360 degrés sur l'entreprise pour pouvoir dire, bah, en fait, cette entreprise, alors pour une banque d'affaires, in fine, le but, c'est de dire, bah, ça vaut combien et du coup, combien tu es prêt à payer. Mais toutes ces choses-là font que voilà, très vite, on se forme une culture, on va dire business, une culture générale business très, très large. Et on apprend surtout énormément au contact de ces gens voilà, qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont vécu beaucoup de choses également, donc c'est assez passionnant. Après, c'est vrai que c'est très prenant, c'est des opérations qui se font en général en très peu de temps, puisqu'on va dire qu'une transaction, le temps, ça peut durer entre 2 mois et 6-9 mois, ça peut, mais donc c'est des temps qui sont très courts, sur lesquels il faut garder beaucoup de rythme pour que l'attraction mutuelle qu'il peut y avoir au moment où une vente d'entreprise reste présente. Et ce qui fait ça donne des horaires de travail qui sont parfois un petit peu à rallonge. Donc ça convient pas, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis on peut pas travailler à ce rythme-là, en tout cas sur pendant des dizaines d'années. Moi j'y ai passé un peu plus de 4 ans. Je regrette pas une seule seconde, mais c'est vrai que ça a été des années intenses.
Là, tu as mentionné un des éléments qui fait que y a des gens en fin de carrière, voilà, ils vont céder leur entreprise parce que de toute façon, faut bien qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Mais il y a peut-être des acteurs qui vont utiliser leur rachat ou la cession d'entreprise d'un point de vue stratégique. Qu'est-ce que tu as pu remarquer ou est-ce que tu as pu rencontrer toi dans ta carrière où tu as une boîte qui a racheté une activité dans le but de, je sais pas moi, croître, peut-être éteindre un concurrent. Est-ce que tu aurais un retour d'expérience à nous raconter là-dessus?
Le premier exemple que je donnais, effectivement, c'est surtout les exemples de PME. Et dans ces cas de cession, il y a deux types d'acheteurs dans ce genre de situation, principalement. On va avoir soit ce qu'on va appeler des stratégiques, c'est-à-dire des sociétés opérationnelles qui cherchent à, effectivement, se développer sur un produit, un marché, une base de clients qui sur lesquels ils ne sont pas encore très présents. Et puis, on a aussi des acteurs financiers, donc des fonds de private equity, donc qui cherchent à déployer du capital et faciliter cette transmission, recruter ensuite un nouveau management qui cherche à faire un retour financier sur 5 à 7 ans. Donc, moi, j'ai travaillé dans mes années de banque d'affaires avec les deux types d'acheteurs, c'est-à-dire à la fois des entreprises qui cherchaient justement à se développer et pour lesquelles telle ou telle entreprise représentait un actif stratégique clé, ou à la fois également avec des fonds d'investissement. Après, je prends l'exemple, chez Conto, nous on a réalisé une opération de M&A jusqu'à présent, donc on a réalisé à l'été 2022, donc on a racheté notre principal concurrent sur le marché allemand, qui s'appelait Penta, qui était vraiment notre concurrent direct. C'est-à-dire que c'était également le compte pro pour PME en Allemagne, à destination surtout TPE, même très, très, très centré comme Conto, avec une suite d'outils autour, facturation, gestion des factures et autres. Ils étaient beaucoup plus gros que nous sur le marché allemand. Conto se développait très bien, mais en partant d'une toute petite base. On avait grossi de manière organique depuis le lancement du marché allemand en 2019. Et de ce point de vue-là, l'acquisition de Penta, c'était vraiment une acquisition stratégique pour nous permettre de grossir notre base de clients, de grossir notre notoriété, la notoriété de la marque Conto en Allemagne, pour nous positionner comme un acteur beaucoup plus crédible sur le marché allemand et du coup accélérer la croissance encore plus. Donc ça, c'était vraiment l'exemple d'une acquisition vraiment, vraiment stratégique et dont on est aujourd'hui, avec un peu plus de 18 mois de recul, très heureux et très satisfait du résultat.
C'est, alors justement, c'est très intéressant de parler de ça parce que ça met aussi en valeur aussi le travail que tu as pu réaliser sur, chez Conto. Donc, j'ai bien compris les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'acheter cette entreprise. Alors, concrètement, comment ça se passe? Les premiers échanges, est-ce que vous discutez? Est-ce que vous êtes un peu proactif? Comment ça se passe là du deal? C'est quoi un peu les éléments sur lesquels aussi vous êtes vigilant pour vous assurer que la boîte elle rentre correctement chez vous, avec la bonne culture? C'est quoi un peu l'envers du décor?
Nous, ça a duré, je pense, 8 mois à peu près entre les premiers contacts et puis la clôture de l'opération.
Ce qui est pas beaucoup en fait. Hein.
C'est pas beaucoup. Et puis, je vais dire même ça a été 4 mois de entre guillemets de drague avec je t'aime moi non plus, on cherche, on n'est pas sûr, on veut y aller, on veut pas y aller. Et puis ensuite, quand on a vraiment décidé d'avancer, de rentrer en due diligence, là, c'était assez rapide. C'était 3 mois et demi. Trois mois et demi, je pense. Donc ces 4 premiers mois, voilà, on connaît notre marché, on connaît nos concurrents, on connaît quelles sont les entreprises qui potentiellement seraient intéressantes pour nous pour accélérer notre développement. Penta était en levée de fonds. Et puis on se rend compte que, en fait, leur levée de fonds n'est pas si facile que ça, par rapport à la valorisation qu'ils espéraient avoir. Ça, c'était pile le moment où les marchés commencent à se retourner, c'est-à-dire fin 2021, début 2022. On a atteint un petit peu le pic des valorisations dans le monde de la tech. Ça y est, les rumeurs de banques centrales qui vont commencer à remonter les taux à l'été 2022 arrivent. Donc, les investisseurs commencent gentiment à se refroidir. Et donc, une levée de fonds qui se serait passée probablement très facilement 4 mois avant, commence à devenir un petit peu plus compliqué. On a des rumeurs de marché, parce qu'évidemment, les fonds d'investissement, les banques d'affaires, tout le monde parle beaucoup, ça fait partie du jeu. Et donc, on apprend que voilà, ça ne se passe pas visiblement aussi bien que prévu. Et donc, on lance une bouteille à la mer, on se connecte avec leur équipe dirigeante, et puis voilà, on commence à discuter sur la base de peu ou pas d'informations. Et puis là, on commence à se dire, une entreprise qui lève des fonds, c'est plutôt qu'elle a envie de continuer à opérer de manière indépendante. Et donc, avant qu'ils soient d'accord pour changer de dynamique, c'est-à-dire de se dire, au lieu de continuer dans une logique indépendante en levant des fonds, en assurant mon développement autonome, je rentre dans une logique d'acquisition où c'est moi qui me fais acquérir. C'est pas très simple pour des dirigeants d'entreprise ou pour des actionnaires. Et donc, ça demande de donner des garanties de notre côté. D'accord, donc combien vous êtes prêts à nous donner? Oui, à quel terme? Oui, peut-être, on va voir. Et puis voilà, on a mis un petit peu 3-4 mois à se mettre d'accord sur à quoi ça pouvait ressembler, sur la base d'informations très limitées, de ce qu'on connaît de l'entreprise, de quelques chiffres qu'on a glanés par-ci par-là. Et puis, on donne une indication de ce qu'on pense que ça peut valoir. Et puis, on aimerait bien pouvoir creuser un petit peu plus. Et donc ça a duré 3-4 mois. À la fin de ces 3-4 mois, on a signé ce qu'on appelle un term sheet. Donc, c'est un document très simple, en une ou deux pages, qui décrit les principaux termes le mot high level me vient en tête, mais en tout cas, je pense que c'est très, très, très simplifié, en tout cas, très, très général. Donc, on va dire, le prix, on veut acheter 100% des titres ou pas? Est-ce qu'on va garder toute l'équipe? Oui, non. Est-ce qu'on va garder le produit? On donne un petit peu les 4-5 grands éléments. Et puis, si les deux parties sont d'accord, on rentre là dans ce qu'on appelle une phase de due diligence. Donc là, c'est là où le vrai travail commence. Pendant une période, je crois que c'était 6 semaines, mais en général, c'est compris entre 4 et 8. En dessous de 4, c'est difficile, et au-dessus de 8, ça devient vraiment trop disruptif dans la vie d'une entreprise. Pendant ces 6 semaines, on va dire, donc l'entreprise qui cherche à se vendre se met complètement à nu face à un acheteur. Met toute sa documentation à disposition dans une data room, donc une salle de données où l'intégralité de ses contrats, de ses résultats financiers, ses présentations du conseil d'administration, ses politiques RH, sa propriété intellectuelle, tout va être mis à la disposition de l'entreprise qui souhaite acheter. Et donc, c'est une période très intense dans laquelle, en fait, on doit faire nos diligences pendant ces 6 semaines, et en 6 semaines, se faire une vue sur qu'est-ce qu'on achète, quelle est l'entreprise, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, pour que le jour où, si l'opération se fait, à J+1 après l'opération, on sache exactement quelles sont les choses qu'on veut faire, les petits cadavres qu'il y a dans les placards, et il y en a dans toutes les entreprises, ce à quoi il faut qu'on soit attentif, et ainsi de suite. Ça nous permet également de préparer l'intégration. C'est-à-dire de se dire, bien acheter, c'est intéressant, il faut savoir le faire, mais bien intégrer, c'est encore plus évident, surtout dans les opérations d'acquisition dans le monde des entreprises en forte croissance, c'est que bien sûr le point d'entrée à combien vous achetez, il est important, mais en revanche la trajectoire que vous allez créer ensemble, elle est beaucoup plus importante dans la création de valeur future que les 5-10% que vous allez optimiser au moment de l'acquisition. Et donc pendant ces 6 semaines, on regarde ce qu'il y a dedans et puis ce qu'on veut faire avec après. Donc c'est une phase très intense et à la fin de laquelle normalement, donc on est capable de dire, ben oui, on est toujours intéressé par l'actif, donc on va faire une lettre d'offre, ce qu'on appelle ferme, et puis envoyer un brouillon de contrat d'acquisition en disant, ben voilà, moi je suis prêt à d'acheter à ces termes-là, avec ce prix, ce contrat, et ainsi de suite. Et ensuite, on discute encore quelques semaines, et quand on est prêt, on signe et on clôture. Et donc là, c'est là où il y a l'échange entre, ben, d'un côté, une entreprise qui apporte, donc qui paye, donc on peut payer de façons différentes, hein, une façon en cash, donc en ou une façon en titre, on peut soit payer avec donc on va dire bah, j'achète tes titres en échange de mes titres, voilà. Et nous pour l'acquisition de Penta, c'était un mix des deux, donc on a payé une partie en cash et puis une partie en titre compte.
J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode.
J'ai plein de questions qui me viennent au fur et à mesure de ta discussion. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu te retrouves face à une entreprise qui a pour ambition de lever des fonds. Tu as dit juste avant. Mais du coup, s'ils ont envie de lever des fonds, c'est que soit ils n'ont plus rien dans le tiroir, ou soit ils ont une ambition qu'ils ont envie d'aller encore un peu plus loin dans leur trajectoire. Donc pour eux, de se dire « on se fait racheter », est-ce que ce n'est pas un peu bizarre? Tu viens un peu contrecarrer un peu leurs ambitions. Qu'est-ce que tu leur vends, en fait, entre guillemets, pour qu'ils s'arrêtent ou alors qu'ils viennent rejoindre le bateau Conto?
Ouais, non, mais c'est effectivement des très bonnes questions. Chaque entrepreneur qui crée son entreprise, il a en général beaucoup d'ambition, il a envie d'aller très loin. Il y a des gens hein, qui créent des entreprises pour se faire racheter, mais c'est, je pense, pas la majorité des gens. Donc oui, il y a un travail à faire. Il y a 2 éléments principaux. Il y a, je pense, le premier, comme tu le dis, dans le monde des entreprises en croissance, le monde des startups et des scale-up, quand on a de l'ambition, on veut grossir, et pour grossir, il faut investir. Et pour investir, il faut des fonds. Et donc, c'est assez rare des scale-up qui sont rentables depuis le premier jour. Il y en a, mais c'est très rare. Donc, dans la majorité des cas, c'est des entreprises qui sont toujours, si sur une base de unit économique, c'est-à-dire quand on va regarder client par client, oui, ils sont capables de générer de la profitabilité. Ensuite, quand on regarde ensuite le niveau d'investissement en coût fixe qu'il faut pour arriver à ça, on arrive à des entreprises qui sont, sous la majorité du temps, en tout cas, pas rentable, et donc qui ont besoin de relever des fonds régulièrement pour continuer à se développer et arriver à atteindre la taille critique qui leur permet ensuite d'être rentable. Néanmoins, c'est une entreprise qui avait des investisseurs qui avaient des reins solides, qui n'auraient pas laissé mourir l'entreprise si jamais demain ils avaient plus d'argent, ils auraient probablement rapporté un petit peu de fonds pour lui permettre de continuer à se développer. Donc après, tout le jeu, c'est de réussir à convaincre qu'en fait on a un projet collectif qui a une mission ensemble, une vision d'ailleurs de ce qu'on veut faire, qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin ensemble et qu'au fond, à la fois pour les investisseurs, pour les employés et puis pour les clients, si on regarde un petit peu l'ensemble des parties prenantes à l'opération, il y a du gain à aller chercher pour tout le monde. C'est-à-dire pour des investisseurs de se dire bon bah cette entreprise là de toute seule là, elle a un petit peu de mal à lever des fonds, mais vous échangez vos titres d'une entreprise qui va bien, qui continue à bien se développer, mais qui a besoin d'argent, avec Conto, qui est sur une trajectoire plus attractive, plus attirante pour un financier. Pour des employés, dire, mais en fait, au fond, on avait exactement la même mission, c'est-à-dire simplifier la gestion financière des TPE, PME, en offrant une suite d'outils uniques, intégrés, qui permettent à des TPE, PME de gérer l'intégralité de leur administratif et de leur pré-comptabilité depuis un seul et même outil. Et donc, en fait, on avait la même vision. Et du coup, se dire, ben en fait, si on le fait ensemble, on va pouvoir toucher plus d'entreprises, on va pouvoir créer une solution encore plus complète. Et ça parle quand même aux employés. Et puis, enfin, pour les clients, de leur dire, ben en fait, vous allez avoir un bien meilleur produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir beaucoup plus, on va pouvoir accélérer le développement de nouvelles features, de nouveaux produits, de nouvelles briques de produits. Donc, au fond, ça, ouais, pour nous, c'était une opération qui faisait du sens pour tout le monde. Alors, ça demande un petit peu d'éducation. Et ça, c'est, maintenant, mon nouveau boulot à temps plein, d'ailleurs, j'allais dire, de réussir à créer cette envie de rejoindre un navire un petit peu plus gros avec une belle mission et on va dire des chances de succès qui sont plus élevées pour tout le monde.
Toi, tu as l'expérience aussi, puisque tu as fait ça chez BNP, tu as fait ça aussi chez Danone. Là, comment tu fais? Est-ce que tu prends des conseils à côté? Parce que là, on est sur une réglementation aussi différente. Toi, tu es en France, la boîte, elle est en Allemagne. Comment tu fais justement pour aller un peu bonifier ton analyse et la rendre plus sécurisante pour Conto?
Comme je disais, effectivement, tu as raison, c'est très important de bien s'entourer et de bien s'entourer de bons conseils sur les opérations de ce type, parce que ça n'arrive pas tous les jours et qu'on veut être sûr de, on veut être sûr de ce qu'on achète, on veut être sûr de, que ça fait du sens pour tout le monde. Alors, je dirais, il y a différents types de conseils. On va avoir des conseils dans banque d'affaires financiers, ensuite des conseils juridiques, donc les avocats qui vont nous aider à la fois sur la due diligence, mais aussi sur la rédaction des contrats. On va avoir des conseils financiers et fiscaux pour faire les due diligence, donc des cabinets de transaction services. Il y a des Big Four, mais pas que. Il y a plein d'autres acteurs indépendants qui font ça très bien également. Donc, ils vont vous aider à décortiquer les chiffres de l'entreprise, de dire, voilà, en fait, les chiffres qu'ils vous donnent, ils sont bons, ils sont pas bons. Les chiffres audités, est-ce que ça reboucle avec les management accounts? Quand on regarde la profitabilité par produit, par marché, comment ça fonctionne? Enfin, essayer de vraiment de comprendre de manière intime la performance financière de l'entreprise. Vous pouvez prendre aussi des conseils en stratégie pour vous aider à comprendre un petit peu quelle est la taille de marché, le rationnel stratégique, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça marcherait pour les clients, réfléchir à la stratégie de branding, enfin voilà, un cabinet de conseil en stratégie peut vous aider aussi, et puis également pour la partie intégration. Voilà, on peut en inventer d'autres. D'expérience, c'est impossible de faire déjà sans avocat. S'il y en a bien un pour qui c'est impossible de faire, c'est sans avocat. Le deuxième pour qui c'est... je trouve, de mon point de vue, c'est impossible de faire, c'est les conseils financiers pour faire les due diligence financières et fiscales. C'est vraiment important parce que ça aide à déterminer le prix, comprendre vraiment quelle est la qualité de l'EBITDA de l'entreprise qu'on achète, quelle est la qualité de la dette nette, savoir qu'on paye le bon prix, c'est quand même hyper important. Et puis s'assurer aussi d'un point de vue fiscal qu'il n'y a pas des dettes cachées, enfin en tout cas des liabilities qui sont pas forcément mises au jour par l'entreprise. Ça, je pense que sans ces deux conseils-là, c'est très 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 compliqué de faire. Ensuite, les banques d'affaires et les cabinets de conseil, ça vient un petit peu en plus si on a besoin, si la taille de l'opération le justifie, s'il y a une complexité, par exemple, si vous devez parler à 10 vendeurs en même temps, avoir une banque d'affaires qui fait l'intermédiaire, c'est bien. S'il y a une négociation très compliquée, avoir deux banques d'affaires qui se parlent, ça permet de faire en sorte que les messages compliqués soient passés par les intermédiaires et pas directement par des gens qui ensuite sont amenés à travailler ensemble, parce qu'ensuite, il ne faut pas oublier que derrière, on intègre. Voilà. Et puis, les cabinets de conseil, ça est très utile, je trouve, quand on se lance dans un marché qu'on connaît moins bien. Par exemple, si on voulait, j'en sais rien, moi, racheter une entreprise dans un marché où on n'est pas, ce marché, on l'a pas forcément nous étudié, on n'a pas forcément chez Conto la connaissance intime de ce marché-là, et puis du coup, utiliser une expertise pour valider quelques thèses d'investissement, c'est également important.
D'un point de vue humain et d'un point de vue technique, relationnel, comment tu les choisis, ces conseils? Parce que ce sont des acteurs stratégiques dans tout l'écosystème pour faire perdurer l'entreprise, pour que le deal il se passe correctement et puis que l'intégration se fasse bien et que vous n'ayez pas acheté un truc à l'arrache, excuse-moi du terme. C'est quoi un peu les choses que toi t'analyses quand tu vas les choisir, ces conseils-là?
Déjà, ça va dépendre un petit peu de quel type de conseil. Je pense que globalement, quand même, c'est bien d'avoir des conseils de long terme, c'est-à-dire des gens en qui on a vraiment confiance, avec qui on travaille de manière régulière, récurrente, qui nous connaissent, on les connaît, on a l'habitude de travailler ensemble, on gagne quand même beaucoup de temps comme ça, ils connaissent nos attentes, nous on connaît ce qu'ils font bien, ce qu'ils font moins bien, ça c'est super important. Par exemple, nous chez Conto, on travaille principalement avec un cabinet d'avocats côté corporate, la relation est gérée par notre équipe juridique et qui nous accompagne depuis très longtemps, à la fois sur nos sujets corporate, classique, mais aussi sur les opérations de M&A. Et comme ils nous connaissent de manière intime, ils sont vraiment, c'était vraiment, vraiment efficace de travailler toujours un petit peu avec eux.
Ils arrivent à bien vous cerner, ça veut dire qu'ils connaissent bien vos ambitions, ils connaissent bien vos enjeux, ouais. Et donc ils s'adaptent aussi vraiment à votre culture d'entreprise.
Oui, bien sûr. Et puis ils connaissent toute la documentation, nos packs d'actionnaires, ils connaissent qui sont nos investisseurs, à quoi il faut faire attention, ils connaissent le board. Enfin voilà, c'est très utile. Sur les conseils financiers, nous, on travaille encore avec un certain nombre de personnes. Idéalement, je pense que, comme je disais, c'est bien d'avoir une personne de référence, mais si vous travaillez qu'avec une personne, les autres arrêtent de venir vous voir, et du coup, on perd aussi un petit peu d'intelligence d'intelligence de marché en travaillant qu'avec une seule personne. Il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que c'est aussi super de pouvoir parler à 5, 6, 7, 8 banques d'affaires différentes qui vont chacune vous amener un insight, de l'intelligence sur tel ou tel sujet, venir vous proposer telle ou telle option. Donc il faut être capable aussi d'entretenir un certain nombre de dialogues stratégiques avec des acteurs différents. Et puis ensuite, côté conseils financiers et fiscaux, on travaille aussi avec 2, 3, 4 acteurs. Pour moi, vraiment, ce qui est important et ce que je vais vraiment valoriser, c'est à quel point en fait, le conseil, il est là et puis il vient juste faire son... Il vient donner son rapport et puis s'en aller. Ou si, au fond, il va, au fur et à mesure, en fait, de son travail, il va prendre le temps de me passer un petit coup de fil, de me mettre un petit mail en disant « Tiens, c'est vrai, là, on a vu ça. Il y a ce sujet-là qui est un peu inquiétant. Ou, tiens, là, ça a l'air super. » Enfin, qui est un petit peu de... qui m'embarque avec lui, en fait, dans son travail. Ça, je trouve, ça crée énormément de confiance, en tout cas, de mon point de vue. Et je me dis, en fait, voilà, il est vraiment là pour m'apporter de la valeur à moi et pas juste pour remplir le cahier des charges de la mission sur laquelle on s'est mis d'accord.
C'est vrai, j'aimerais aussi te poser encore 2-3 questions. Je ne sais pas sur la partie M&A, je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse là, mais j'aimerais savoir aussi donc l'intégration. Alors, non, 2 sujets. Quel intérêt pour vous d'avoir fait une proposition où la personne elle prend du cash et puis elle prend une part des actions? C'est ce que j'ai compris dans ce que tu m'as dit. C'est quoi l'intérêt d'avoir fait cette proposition? Il y en a un, tu vois.
Bien sûr, il y en a plus qu'un même. Il y en a plus qu'un. Alors, d'abord, je vais en donner un qui est très terre à terre, qui est une entreprise en croissance pas rentable, elle n'a pas beaucoup de cash. Donc, en fait, pour payer une acquisition, elle a sa monnaie, en tout cas, son cash est limité. Il se trouve que, voilà. On aurait pu, je pense, tout faire en cash. Après, c'était un peu mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, on a aussi une maîtrise. En tout cas, je m'occupais également de toute l'équipe finance à l'époque. Donc, il y avait un sujet. On a du cash, mais on n'a pas. On venait de lever, faire notre grosse levée. Donc, mais est-ce qu'on a envie de mettre tout ce cash dans cette opération-là? Non, puisqu'on n'est pas notre rentabilité n'est pas encore assurée à l'époque. Donc il y a un petit peu un sujet de. Voilà, on regarde un petit peu les risques et d'allocation de ressources. Donc ça, c'est le premier. C'est déjà les ressources disponibles que vous êtes prêts à mettre sur ce projet-là. Et le deuxième, c'est au fond l'intéressement du management et des anciens actionnaires au succès collectif futur. C'est-à-dire que quand vous payez en titre, les anciens actionnaires, ils ont quand même plutôt intérêt à essayer de vous aider et à faire en sorte que le développement de l'entité combinée se passe bien. Puisqu'en fait, eux, ils étaient intéressés. Donc, ils avaient des parts d'une entreprise et puis ils ont une part maintenant de cette grande entreprise combinée. Et donc, tout le monde devient intéressé au succès collectif. Et ça, c'est super puissant. C'est puissant aussi pour le management de l'équipe de direction qu'on rachète. C'est de les intéresser non pas sur pas uniquement sur la performance de leur business unit, mais aussi de l'intégralité du groupe, pour faire en sorte qu'il va y avoir du partage d'informations, partage de connaissances, qui viennent aider sur tel ou tel sujet. Donc, ça a aussi pas mal d'avantages de pouvoir payer en action. L'inconvénient, c'est qu'il faut évidemment que vos actionnaires acceptent de se faire diluer. Donc, ça veut dire un petit peu moins de contrôle pour chacun des actionnaires existants.
Donc, il faut réussir à vendre aussi ce projet à un peu tout le monde.
Exactement, il faut aussi vendre ça à ses investisseurs existants.
Ça tire dans tous les côtés, en fait.
Le financier est quand même un vendeur, hein, toujours. Sur des deals M&A, sur des opérations de financement avec des banques ou des investisseurs, il faut toujours savoir bien vendre. C'est important de savoir bien vendre quand on est financier.
Dernière question sur cette partie-là. Donc, il y a cette phase d'intégration dans l'entreprise. Donc, j'imagine qu'il y a une phase d'intégration opérationnelle, culturelle. Et aussi, j'aimerais savoir aussi comment vous intégrez financièrement cette boîte et comment ça se gère après.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est, je pense, globalement plus important dans la création de valeur dans les opérations de fusion-acquisition, c'est comment est-ce qu'on intègre derrière et est-ce qu'on est capable, avec le plan d'intégration qu'on a, d'extraire le maximum de valeur stratégique et opérationnelle. Nous, on a, alors, dans le cas de, si je prends l'exemple de Penta, on avait deux produits relativement proches. On avait des marques. Eux, ils avaient un tout petit peu plus de notoriété que la nôtre, mais une notoriété qui était quand même relativement faible et pas très, très installée dans le marché allemand. Et donc, on a fait le choix de se dire, en fait, on va garder un seul produit et une seule marque. Et ça, ce choix, il était très clair dès le début, dès le moment où on se met d'accord. En fait, les deux entreprises se disent, ça fait du sens de garder vraiment un seul produit et une seule marque. Alors, pourquoi? Parce que deux produits, c'est deux plateformes à maintenir. Donc, c'est des coûts d'un point de vue tech produit qui sont beaucoup plus importants. Et puis deux marques, ça veut dire, en tout cas, créer de la notoriété sur deux marques à la fois, acquérir sur deux plateformes. Et donc ça, c'est des coûts d'acquisition. Et donc, il y a beaucoup de synergie, en fait, à rationaliser ça. Il y a à se dire, on va développer qu'une seule marque dans le marché allemand, qui est la marque Conto. Ensuite, il y a l'intégration des équipes. Donc, il y a le produit, la marque, et puis ensuite, il y a les équipes, et puis ensuite, il y a les systèmes. Donc les équipes, là, franchement, là-dessus, il n'y a pas de règle, ça dépend. Ça dépend ce que vous essayez de faire. C'est sûr que si on dit on garde deux produits et on garde deux marques, il ne faut pas trop intégrer les équipes. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet de comment bien intégrer, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va lire le plus souvent, c'est il ne faut surtout pas toucher ce qu'on achète. En laissant l'entreprise qu'on a achetée le plus indépendante possible. C'est vrai, dans une certaine mesure. C'est pas toujours vrai. Dans une logique comme la nôtre, où au fond, on décide de se dire on veut un seul produit et une seule marque, on ne va pas garder des équipes indépendantes. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait le choix, dès le début, d'intégrer les équipes. Donc les équipes produits tech de Penta ont rejoint nos équipes produits tech, les équipes finances de Penta ont rejoint mon équipe, les équipes de marketing ont rejoint les équipes marketing, afin justement de créer beaucoup plus de synergie, de partage de valeur. Ça dépend vraiment, encore une fois, de l'ambition stratégique et du plan long terme. C'est vraiment important d'avoir cette vision à 3, 4, 5 ans. On n'est pas forcément obligé de savoir exactement par quel chemin on va y arriver, mais en revanche, de se dire on veut arriver là, et du coup, quels sont les premiers steps, les premiers pas qu'on va mettre, ça c'est extrêmement clé. Ça, et là-dessus, ce qu'il faut aussi, c'est que il faut beaucoup, beaucoup communiquer, expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça, pourquoi est-ce que ça crée de la valeur pour les deux entreprises, pour les clients, pour les investisseurs. C'est vraiment important d'embarquer tout le monde et d'embarquer les équipes sur le sujet, et puis d'accueillir aussi des équipes qu'on intègre au sein de ses propres équipes. Nous, ça s'est fait assez rapidement. L'intégration des équipes, ça a pris 4 à 5 mois. Donc, on a, je crois, clôturé le deal fin juillet, et puis ensuite, entre fin août et fin décembre, en 4-5 mois, on a intégré vraiment les équipes de Penta au sein de nos équipes. Et puis, évidemment, ensuite, il faut intégrer les systèmes. Et puis, d'un point de vue financier, ça, c'est également important. On n'a pas tout fait parfaitement. Encore une fois, si je regarde un petit peu l'aspect finance, et comment est-ce qu'on a intégré la finance, nous, on s'est dit, on va utiliser cette acquisition pour mettre, en fait, notre équipe finance sur un mode plateforme, sur lequel, en fait, si plus tard, on a envie de faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 autres acquisitions, en fait, on a la structure qui nous permet de le faire. Parce que clairement, on aurait pu se dire, en fait, du coup, par exemple, et là où c'est, je pense, le plus évident, c'est sur les fonctions de comptabilité, qui sont vraiment les fonctions les plus locales, là où il y a vraiment besoin d'avoir une compétence locale forte, les normes comptables ne sont pas les mêmes, enfin, je veux dire, c'est des choses très différentes. Nous, on s'est dit, et moi, c'est aussi ce que j'avais vu chez Danone et chez Uber, à savoir des équipes comptables qui étaient un petit peu des centres d'expertise, des shared service centers d'expertise. C'est des équipes qui sont capables de produire du coup l'information réglementée, l'information comptable réglementée pour les entités dans tous les pays du monde. Et donc ça demande une bonne articulation entre une équipe comptable centrale et puis ensuite des cabinets d'expertise comptable externalisés dans chacun des pays pour s'assurer que ce qui a été booké en interne ensuite fonctionne bien pour les normes, le régulateur et puis les auditeurs locaux. Voilà, ça on l'a pas fait parfaitement. J'irai pas dans le détail là, mais en tout cas on a eu plein de bons learnings, de choses à faire qui ont très bien marché et puis de choses sur lesquelles la prochaine fois on fera un petit peu plus attention.
D'ailleurs, tu sais, j'imagine que pour les personnes qui travaillent chez Conto ou qui sont issues un peu de la boîte, en fait, pour eux, d'acquérir une nouvelle entreprise ou alors d'intégrer de nouvelles personnes dans la boîte, je pense que c'est un peu, ça galvanise parce que je pense que le management, ils se disent, on a une ambition qui est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et donc, ça traduit un peu l'ambition, le fait d'acheter une autre boîte dans un marché. Je pense que c'est assez facile pour ceux qui bossent chez Conto d'intégrer ça. Mais ceux qui viennent de chez Penta, eux, ils ne sont pas un peu perturbés?
C'est une excellente question, Nicolas. Effectivement, ce sujet de culture et d'intégration des équipes, parce qu'effectivement, rien ne se fait sans des équipes qui collaborent bien, il est super important. C'est plus simple parce qu'on voit que son entreprise se développe, qu'elle est ambitieuse, qu'elle est active, qu'elle se développe. Et au fond, tous mes collègues qui ont rejoint Conto, ils ont rejoint Conto aussi pour ça, parce que c'est une entreprise en croissance, avec de l'ambition, qui a envie de faire bouger les choses, d'apporter de la nouveauté. Donc bien sûr, c'est très galvanisant de se rendre compte qu'en fait, on est une entreprise qui a un peu le vent dans le dos et qui est un petit peu qui est portée, quoi. Pour les autres et l'entreprise qu'on les salariés, les équipes de l'entreprise qu'on acquiert. C'est un petit peu moins facile et du coup il y a quand même certaines choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Un, c'est qu'il faut vraiment essayer de bien comprendre quelle est la culture de cette entreprise là. Nous chez Conto, on a une culture assez forte et c'est vrai que on s'est rendu compte que c'était pas exactement la même culture. L'ADN, enfin, en tout cas la mission et l'ADN de ce qu'on essayait de faire était vraiment la même chose. Puis après, dans les façons de faire, il y a mille et une façons de faire différemment. Et notre façon de faire était assez différente sur plein de choses, hein, sur les façons de travailler, la gestion de la performance, la culture présentielle ou remote. Enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, il y a les contrats de travail. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui ça se matérialise vraiment dans plein de petits détails. Ça, on l'avait quand même relativement bien anticipé, je trouve, dans la phase de jeunes. Et puis ensuite, on a pris encore quelques mois pour y arriver. Et puis, la greffe, elle prend avec la plupart des gens, elle prend pas avec tout le monde. Nous, c'était donné, par exemple, pour objectif de garder l'intégralité des équipes. Quand on voit souvent les opérations de M&A, on voit souvent que ça donne lieu à des restructurations, des suppressions de postes, tout ça. Et donc, nous, on s'était dit, en fait, nous, on a vraiment envie d'accélérer sur le marché allemand. Donc, en fait, on a vraiment besoin de tout le monde pour y arriver. Et je pense qu'on a été un petit peu naïf sur le sujet. Je pense que c'est pas un bon objectif. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont venus pour travailler dans une entreprise qui était indépendante sur ce produit-là, avec cette marque-là, ces collègues-là. Et comme nous, en fait, on a intégré l'intégralité des équipes Penta au sein de nos équipes à nous, bah, si vous étiez dans l'équipe produit de Penta et puis vous travailliez avec quelqu'un au comité de direction de Penta, bah, ce comité de direction de Penta n'existe plus. Donc, en fait, concrètement, votre travail change. Et donc, pensez que bah, on est tellement... penser que en fait tout le monde sera ravi forcément de rejoindre le navire Conto, c'est effectivement un petit peu naïf. Donc on en est, je pense, un petit peu revenu. Donc ça, c'est un objectif qu'on avait à l'époque et qui est pas un bon objectif et sur lequel qu'on fera pas, qu'on se mettra pas cet objectif-là dans le futur. Voilà, on n'avait clairement pas d'objectif après de ne pas avoir d'objectif de suppression de postes. Je pense que c'est très bien aussi, surtout quand on fait du M&A de croissance où vraiment on est dans une logique d'expansion. Voilà, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de garder, en fait, c'est aussi ça passe aussi par beaucoup de soutien individuel, c'est-à-dire de parler de la communication tout à l'heure, mais aussi de montrer notamment aux personnes clés, vraiment aux talents importants dans l'entreprise, de passer beaucoup de temps avec eux, de leur expliquer à quel point en fait ensemble on va réussir à créer plus de valeur, à quel point eux sont également importants dans cette fusion, dans la continuité de l'information, dans le partage de leur expérience.
C'est vrai, toi, tu rejoins... Alors, j'arrête de t'embêter avec cette histoire de M&A, mais c'est trop intéressant pour moi. Je suis obligé de m'arrêter pour passer à la suite. Toi, tu rejoins Conto en mai 2021. C'est quoi qui te donne envie d'intégrer cette boîte? Tu m'as dit, t'es arrivé, il y avait 6 personnes. Là, il y en a 30. C'est quoi un peu l'histoire qui t'a fait rencontrer cette boîte?
Moi, à cette époque-là, je travaillais chez Uber. J'avais un super job. J'étais ce qu'on appelle Head of Finance, donc on va dire le business partner finance de la DG de la région Europe, Middle East, Afrique. C'était 40 marchés, un business de plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. C'était un très beau business, une belle équipe de 10 personnes. C'était assez chouette. Alors après, c'était une période pas très amusante parce que c'était pendant le Covid. Donc, les activités de VTC pendant le Covid, ça a un petit peu pris du plomb dans l'aile. On avait perdu 90%, je crois, de notre volume d'affaires en 2 semaines, hein, ou en 3 semaines. Donc, ça a été une période intéressante, mais effectivement, qui était un petit peu plus complexe. En fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai, t'es sur une bonne trajectoire de carrière, tout va bien, t'es sur un beau poste, on va dire, de middle-high management, je sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, j'étais N-2 du CFO d'une entreprise qui était valorisée sous 50 ou 60 milliards d'euros à l'époque, donc c'était une belle, je pense, un beau job. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas vraiment vu qu'est-ce que ça veut dire faire tourner la finance d'une entreprise. En fait, j'ai vu les aspects de M&A, bon, qui sont très transactionnels et qui sont pas détoudés, quoi. C'est clairement pas le détoudé d'une entreprise. J'ai vu les aspects FP&A, Strategic Finance, contrôle de gestion, mais en revanche, comment les opérations financières d'une entreprise tournent, bah, je sais pas très bien. Enfin, évidemment, j'avais plein de contacts, je travaillais de manière assez proche avec certaines équipes comptables, ainsi de suite, mais au fond, je savais pas et j'avais envie de comprendre ça, de voir, d'expérimenter par moi-même, et puis de rejoindre aussi. Donc j'avais cet aspect-là, et puis j'avais envie de tenter ma chance en tant que numéro 1 dans une entreprise un peu jeune, en croissance et dynamique. Moi, chez Uber, j'ai vraiment vu la transition entre la fin de l'époque, on va dire, Travis Kalanick, l'époque vraiment disruptive, et puis le passage à société cotée, et puis vraiment société mature, adulte, qui prend ses responsabilités. Et c'était très, très intéressant de vivre ce passage-là. Et je me suis dit, j'avais 33 ans à l'époque, je me suis dit, oh, j'ai pas 13, j'ai pas. Enfin, là, je retourne dans une entreprise qui ressemble plus à ce que j'avais pu connaître chez Danone, et c'est très bien, hein, ça correspond à plein de personnes. Mais au fond, moi, j'étais aussi venu chercher un peu plus d'action, de capacité à agir vite, où j'avais envie de me rapprocher d'une entreprise encore un peu plus jeune. Et donc, Conto, c'est une entreprise que je suivais depuis pas mal d'années, je suivais leur page LinkedIn, je voyais leur développement, j'étais assez impressionné. Et puis à un moment, voilà, ils recrutaient dans leur équipe finance, un leader dans leur équipe finance, et puis je me suis dit, waouh, voilà,
c'est pour moi.
C'est incroyable si je peux l'avoir, et puis ça a marché, et je suis très heureux que ça ait pu marcher.
Toi, tu fais ce process de recrutement. J'ai quand même la sensation que la culture chez Conto, c'est excellence, first, tu vois, en mode on ne veut pas faire les choses de manière rigolote. C'est quoi le process de recrutement? Ça a été quoi le funnel dans lequel tu es passé pour dire, OK, tu as le job?
C'est un process, je reviendrai après sur la culture de Conto. Je pense que le process, moi, j'ai une des raisons, je vais dire, qui m'ont donné encore plus envie de rejoindre Conto, c'est le process de recrutement. Et je me suis dit, en fait, ce process est tellement bien structuré, organisé, je suis tellement bien accompagné dans ce process que, en fait, il laisse tellement rien au hasard. Je me suis dit, c'est la boîte qu'il me faut. Donc, je fais un petit clin d'œil à Robin, notre recruteur, qui est toujours là et que j'adore, qui m'a vraiment pris par la main dans ce process de recrutement. C'est un recrutement qui est assez, je pense, alors qui est un peu intense, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, 7 ou 8 étapes, je pense, qui est assez similaire à ce que moi j'avais connu chez Uber. En revanche, dans la façon de faire, la façon d'accompagner le candidat et l'expérience candidat était vraiment incroyable. Bon, ça commence simplement par, je pense, enfin, moi j'avais commencé, c'est un premier screening avec les équipes RH, ensuite DRH, ensuite j'avais rencontré un premier échange avec Alexandre, donc le fondateur, Alexandre Pro, et ensuite j'ai eu un case study, donc je pense qu'il commence à être quelque chose d'assez classique que j'avais déjà eu chez Uber également, qui est une sorte de mise en situation, vous donne un cas pratique pour permettre de vous rendre compte de c'est quoi le type de problématique qu'on peut rencontrer quand on travaille chez Conto, et puis pour l'entreprise aussi de se dire bon, est-ce qu'il a, au-delà de il s'est bien parlé, il s'est bien raconté son histoire en entretien, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose
qui délivre, quoi,
est-ce qu'il y a quelque chose sous le capot, quoi. Donc c'est souvent assez utile comme exercice. Ensuite j'avais rencontré également deux personnes qui allaient devenir mes pairs, deux membres du comité de direction, les deux personnes clés de l'équipe que j'aurais eu à manager en direct, et puis l'autre cofondateur, Steve, et un des investisseurs. Donc j'ai quand même rencontré pas mal de monde, et au fond, à chaque fois, on en apprend toujours un petit peu plus sur l'entreprise. On arrive vraiment comme à chaque fois, on a toujours l'occasion de poser ces questions, je trouve, de se faire une super idée de ce dans quoi on s'engage. Et puis du coup, il y a un côté où, quand vous avez vu 8 personnes et qu'au final, on vous dit oui, vous arrivez avec en tout cas un niveau de confiance en vous qui est hyper fort, quoi. C'est-à-dire, on se dit, en fait, j'ai vraiment été choisi, donc ils veulent vraiment que je sois là, donc c'est super. Donc je trouve qu'on arrive vraiment dans les meilleures dispositions. Et puis sur le process de recrutement en lui-même, là, j'avais à chaque fois un débrief après chaque entretien, et puis pour m'aider à me préparer pour celui d'après, en disant, tiens, telle personne, elle est plus attentive à ça ou à ça. Voilà comment il faut te préparer. Et ça, j'avais jamais vu. Et puis avec un rythme qui était, en fait, on te lâche pas. C'est-à-dire qu'on a envie que tu ailles au bout. Et un peu comme dans un dilemme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle du momentum, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait il y a un moment où les deux ont envie que ça marche. Et en fait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et que ça avance. Et donc, ça a avancé de manière très, très rapide. Et puis, en fait, on se laisse embarquer et on a envie d'y aller, quoi. Donc, c'est un process intense, mais extrêmement riche. Et à la fin, vraiment, on a tous les éléments pour décider. Il n'y a pas de zone d'ombre, quoi.
C'est vrai que j'avais vu dans le process de recrutement d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque étape. Je pense que c'est assez puissant, qu'il n'y ait pas de redondance en fait avec l'étape précédente.
Oui, non mais alors, c'est sûr qu'on répète quand même, enfin en tout cas quand on se présente et ainsi de suite, on répète quand même un certain nombre de choses. Mais quand les process sont bien faits et qu'en fait chaque entretien vient avec un but spécifique, qui est de dire, en fait, telle personne va checker plutôt tel aspect, tel autre, il y en a un qui va faire plutôt la culture, l'autre l'ambition, l'autre les méthodes de travail, l'autre le management. Et au fond, on a à chaque fois des échanges qui sont différents et puis on apprend un petit peu sur tous les aspects importants de la culture d'entreprise. En fait, ça permet de se donner une bonne idée. En fait, si l'entreprise met de l'attention là-dessus, ça veut dire que c'est important pour elle et donc ça me dit quelque chose sur sa propre culture. Et ça, c'est vachement important.
Donc toi, t'arrives, t'as 6 personnes, qu'est-ce que tu découvres et c'est quoi un peu ta mission? On te dit, voilà, on t'a embauché pour tel sujet. Alors, l'objectif, c'était quoi pour toi et qu'est-ce que tu as construit au fur et à mesure?
Ouais. La mission, ça a toujours été finance, c'est pas une fonction opérationnelle, enfin, c'est une fonction support. J'aime pas trop ce terme, mais en fond, ce que je veux dire par là, c'est que la mission, ça a toujours été d'accompagner et d'être au service du développement de Conto. C'est-à-dire que la finance soit véritablement une équipe qui permet à Conto d'accélérer sa croissance. Et donc ça vient sur deux, on va dire, j'ai caricaturé beaucoup, mais avec deux principaux aspects. Le premier, c'est, du coup, on construit l'infrastructure financière qui nous permet de faire face à toujours plus de volume, toujours plus de clients, toujours plus de transactions, toujours plus de factures, toujours plus de paiements. Voilà. Donc ça, tout ça, il faut réussir à construire cette infrastructure-là au fur et à mesure. Et puis également, apporter de plus en plus de valeur au business pour l'aider à prendre les bonnes décisions. C'est un petit peu, je mets un petit peu pour simplifier, c'est pas en opposition, mais en tout cas les branches un petit peu FP&A, contrôle de gestion, et puis les branches compta, trésor, taxe. La mission, elle a toujours été là. Ça a toujours été d'être au service du business, au service de la croissance de Conto, de pas être non seulement de pas être un frein, mais de permettre aussi d'aider à accélérer le développement. Et puis il y a quand même une troisième mission qui est importante d'une entreprise en croissance, surtout quand elle est pas rentable, c'est d'assurer moyen de financer la croissance. Et donc une des grosses missions, moi je suis arrivé en mai 2021, en janvier 2022 on a annoncé notre levée de fonds de série D, donc qu'on a fait sur le quatrième trimestre 2021. Donc une grosse partie en tout cas de mon travail pendant ces six premiers mois, ça a été d'aider à préparer, structurer, organiser et puis conduire ce processus de levée de fonds. Donc voilà, oui, quand même l'accès à la ressource financière, c'est quand même aussi un des principaux enjeux du poste de directeur financier.
Je lisais un post LinkedIn de toi que tu as dû écrire il y a peut-être deux semaines ou deux mois qui disait que le directeur financier, il est très important dans les comités de direction. Alors, il n'est pas obligé de parler tout le temps, mais en tout cas, c'est important qu'il soit là. C'était quoi un peu ta relation avec le management et le top management de Conto dans ces échanges-là? Quel est le vernis et la couche que tu apportes, toi, dans les discussions comme ça?
Effectivement, je crois que le poste, il était sur les conseils d'administration, mais c'est aussi très vrai sur les équipes de direction, donc je répondrai sur les deux. Alors moi j'étais, j'ai pendant un peu plus de deux ans fait partie du comité de direction de Conto. Donc on était une équipe d'une dizaine de leaders entre produits, tech, opérations, marketing, ressources humaines, juridiques, ainsi de suite. Le rôle du financier, du directeur financier dans ce comité de direction, il est un petit peu particulier. C'est-à-dire que non seulement il se doit d'apporter évidemment son expertise financière, de comment est-ce qu'on fait tourner la finance dans une entreprise de ce type-là, mais il doit également avoir une vue complète sur ce qui se passe dans le reste de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit être capable de challenger les équipes marketing sur est-ce qu'en fait on croit assez vite, assez bien, est-ce qu'on utilise les ressources, est-ce que l'utilisation des ressources elle est faite de la manière la plus optimale qui soit, challenger les ressources humaines sur le rythme des recrutements et du coup la croissance du headcount, challenger les équipes opérationnelles sur l'efficacité du support client, plein de choses. Et donc en fait on doit à la fois très bien connaître notre propre chapelle, mais aussi avoir une vue très très fine de ce qui se passe dans celle des autres. Et ça, c'est un rôle un petit peu particulier du directeur financier. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles le directeur financier, c'est peut-être le bras droit du CEO. C'est assez, peut-être dans une entreprise encore un petit peu plus mature. C'est un rôle qui est particulier. Nous, on est évidemment jamais là pour se substituer aux opérationnels. On est plus là comme un challenger, parfois aussi un petit peu poil à gratter. C'est-à-dire tester les raisonnements, comprendre pourquoi est-ce que telle décision, et ça s'assurer que, on s'est posé les bonnes questions avant de prendre telle ou telle décision de recrutement, d'investissement, de changement de fournisseur ou autre. Et puis, on est aussi là quand même pour définir avec le CEO la trajectoire financière qu'on veut donner. Donc, c'est donner le cadre. En fait, on est quand même là pour donner le cadre et ensuite contrôler derrière. Et donc, donner le cadre, ça passe de manière très concrète par faire un budget. Voilà, ça s'appelle donner le cadre. Mais pour ça, en fait, pour faire un bon budget, il faut comprendre vraiment quels sont les enjeux de l'entreprise, quelles sont les attentes des clients, quelles sont les attentes des investisseurs. Il faut encore une fois refaire le tour de toutes ces parties prenantes pour prendre tous ces morceaux d'informations et se dire, bah, aujourd'hui, par exemple, je suis pas rentable. Bon, oui, j'ai une opportunité de marché gigantesque si j'investis deux fois plus, mais si je fais ça, bah, mes ressources en cash, elles vont se réduire drastiquement. Est-ce que dans 6, 9, 12 mois, le marché sera toujours bon pour lever des fonds à ce moment-là? Si on se dit, bah, en fait, peut-être pas, bah, du coup, je redétricote dans l'autre sens et je me dis, bah, on va peut-être appuyer un petit peu moins fort sur l'accélérateur. Donc, voilà, c'est vraiment important d'aller rassembler toute cette information pour donner le cadre le plus précis possible et le plus serein possible pour que tout le monde puisse ensuite dérouler sa stratégie opérationnelle.
J'aime bien le fait de dire parfois, il est un peu considéré comme du poil à gratter, tu vois. C'est vrai que, tu vois, t'as les autres acteurs du comité de direction, la partie sales, marketing, etc. Je pense qu'il faut quand même savoir faire preuve de pédagogie dans ce job-là, parce que en gros, si je caricature, hein, et c'est pas contre toi, c'est en gros le financier, il connaît pas le business, il sait pas de quoi je parle, il connaît pas mon quotidien. Qu'est-ce qui me vient avec à m'embêter avec ses coûts et ses trucs? Il faut que j'investisse pour que ça puisse marcher. Comment justement vous arrivez à créer ce lien et cette compréhension entre toutes ces personnes-là?
C'est avant tout, pour moi, la clé du succès là, elle est d'abord dans la relation qu'on va réussir à créer avec les autres. Je pense que celui qui se dit, attends, je vais te montrer avec mes chiffres et mes ratios que franchement, ce que tu fais, ça n'a pas de sens, il se trompe complètement. Je comprends qu'on puisse penser ça, et oui, pour quelqu'un de complètement extérieur, très rationnel, ainsi de suite, il y a des gens qui sont capables de faire ça, mais la majorité des gens, si vous leur faites une démonstration en mathématiques par A plus B, parce que ça marche pas, même si les chiffres sont là, ils vous croiront pas. Ou alors, ils auront pas, ils seront sceptiques, ou ils diront, ouais, je sais pas d'où ça sort, ce truc-là. Donc la clé, c'est d'avoir créé cette relation de confiance avec chacun des membres du comité de direction pour que le jour où vous dites non, vous êtes capable vous dites bah ça ou pas comme ça, vous soyez capable, un, de l'expliquer de manière super claire, super pédagogue, et puis aussi vous avez aussi la confiance de l'autre qui vous dit ok, bon bah même si potentiellement je suis pas complètement sûr de comprendre exactement tous les tenants et tous les aboutissants de ce que tu me dis, si c'est vrai, là, il me le dit, c'est que c'était vraiment important ou qu'il faut. Et du coup, je suis prêt à le suivre là-dedans. Cette confiance-là, elle se crée. Il faut passer du temps avec les gens, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, il faut aller creuser leur business ou poser des questions. Toujours poser énormément de questions sur tout ce qui se passe dans le business. Moi, j'aime bien faire ça en commençant par regarder les chiffres, et puis je les regarde d'abord tout seul, puis après je vais poser des questions à chacun sur t'as tel chiffre là, tu peux m'expliquer comment ça marche, mais pas pour critiquer, juste pour comprendre. C'est d'abord essayer de comprendre, passer beaucoup de temps à essayer de comprendre, et puis ensuite quand on comprend et qu'on aime faire parler les chiffres, et moi j'aime beaucoup ça, et ben en fait on est capable de montrer, de montrer à quelqu'un, à d'autres, tiens, bah regarde, moi j'ai vu cette tendance-là, est-ce que tu l'as en tête? Ah bah non, tiens, et puis là, les gens se disent, tiens, bah en fait je peux m'appuyer sur lui, il peut me créer de la valeur, il arrive à voir les trucs que moi j'ai pas vu, même s'il est pas dedans. Voilà, c'est investir beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre ce que font les autres, comprendre quelles sont leurs métriques, s'ils regardent les bonnes métriques, pourquoi ils regardent cette métrique-là, ce KPI-là, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est peint là, et puis progressivement, on va réussir à les emmener sur le chemin de l'efficiency, c'est-à-dire que avant de dire bah tiens il faut que ton sales il faut qu'il vende X par mois, peut-être déjà comprendre quel est le process de vente de A à Z, quelles sont les différentes étapes, pourquoi c'est structuré comme ça, donc il faut être assez humble, repartir en bas et puis recomprendre, voilà, essayer de déconstruire un petit peu tout le business de l'entreprise. Donc ça, je trouve que ça aide énormément pour créer cette confiance là et puis aussi leur donner aussi des et puis partager de l'information sur ce qu'on voit en externe. C'est-à-dire qu'en fait, le CFO, le directeur financier, il est souvent assez connecté avec le monde extérieur, avec des investisseurs existants, des investisseurs potentiels, avec des commissaires aux comptes, avec des banquiers d'affaires. Et en fait, ce qui est peut-être potentiellement moins le cas d'opérationnels, et du coup, de leur dire, d'autres opérationnels, et de leur dire, bah voilà, en fait, le marché aujourd'hui, il est comme ça, les gens réfléchissent comme ça sur notre business. Pour un investisseur, en fait, ils vont regarder plutôt tel KPI que tel autre, et du coup, les éduquer également, c'est vraiment important et c'est vraiment utile. Et ça aide justement dans la construction de cette confiance-là, qui nous permet ensuite, quand on a créé ça, de jouer ce rôle de poil à gratter et avec, en tout cas, suffisamment d'assises pour être crédible.
Je faisais justement un échange avec un CFO le CFO de chez Backmarket, qui s'appelle Clément Petit, et qui me disait, en fait, 80% de mon temps, c'est hors du bureau, quoi. Je suis en train de discuter avec tout le monde, sinon ça ne marche pas, en fait.
Oui, absolument. Le directeur financier derrière son Excel, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est très clair.
C'est fini. D'ailleurs, comment toi, t'es objectivé? C'est quoi un peu tes KPIs sur lesquels toi, on va t'évaluer en disant, bah tiens, c'est vraiment toi, ton job, il est bien fait parce que tu atteins tel objectif?
C'est une très bonne question.
Parce qu'on peut considérer que c'est un peu intangible, tu vois, comme tu l'as dit, t'es un peu une fonction support, donc comment qu'on évalue ça, tu vois?
Bien sûr. Moi, jusqu'à présent, ça n'a jamais été matérialisé sur mes objectifs individuels avec des KPI très, très sonnants et trébuchants. Y a effectivement une bonne part d'intangible. Après, les grands éléments que je considère, moi, comme importants, et ce qu'on avait aussi essayé de mettre en place avec les équipes, hein, c'est est-ce qu'on atteint notre budget, en fait? Est-ce qu'on est capable de... Est-ce qu'on est capable de... Pour que la finance soit crédible, il faut aussi qu'elle soit capable de bien capable de prédire ce qui va se passer, de prédire l'avenir. Donc ça, ce que vont faire les équipes FP&A, alors à la fois dans le budget, mais aussi avec les exercices de reforecast qu'on va faire régulièrement au fur et à mesure de l'année, de se dire, en fait, est-ce que la finance, elle est là avec ce rôle un peu de vigie, quoi, de tour de contrôle, de dire attention, à l'horizon, là, si on continue comme ça, on se prend le mur, ou là, tiens, il y a telle chose qu'on n'a pas vue, ou tiens, là, on a tel vent arrière qui nous pousse un peu plus vite, donc on peut accélérer et investir plus. Enfin, voilà, on a donc cette capacité à bien prédire, et ça se mesure assez facilement. Enfin, on regarde un petit peu les écarts qu'on va avoir entre un budget, un forecast, ainsi de suite. Et là-dessus, voilà, en tout cas, il y a certains éléments. En tout cas, le chiffre d'affaires, le revenu, c'est toujours un peu plus compliqué. En revanche, les dépenses, c'est assez objectivable. Ça, c'est assez objectivable et ça marche assez bien. Donc ça va être un des points clés. Moi, je crois assez fort également au NPS des équipes en interne. Donc, on va se dire, est-ce que mon équipe... Alors, les équipes qui s'interfacent le plus avec le business, donc ça va être plutôt nos équipes contrôle gestion chez nous du FP&A. En fait, quel est le retour qu'on a des opérationnels sur la valeur qu'ils apportent? Donc effectivement, c'est intangible, mais ça peut se mesurer. On va chercher un peu la satisfaction interne des clients, de nos clients internes. Et puis ensuite, on va avoir aussi à quel point on a de bonnes discussions avec justement le comité de direction, de bonnes discussions avec le board, le conseil d'administration. Ça va être plutôt sur ces aspects-là.
On arrive déjà quasiment à la fin de l'épisode. J'en ai trop sous le pied, c'est vrai encore. Je vais te poser quand même 2-3 questions pour un peu clôturer cet échange. Comment toi as-tu recruté toutes ces personnes qui vous ont rejoint? Qu'est-ce qui te sensibilise, toi, chez ces professionnels du chiffre avec lesquels tu collabores? De tous horizons, que ce soit des comptables, des financiers, contrôleurs de gestion.
Ah ouais, c'est une super question. Parce qu'en fait, c'est quand même... les gens dont vous vous entourez, c'est la clé de votre succès. À tous les niveaux, hein, que ce soit en tant que directeur financier, mais aussi quand vous arrivez dans votre premier poste de management et que vous construisez votre première équipe. Il y a plusieurs points auxquels je vais être vraiment sensible. Je vais être sensible à comprendre la motivation intrinsèque des gens. Je pose beaucoup de questions là-dessus en entretien. C'est facile de dire ah oui, rejoins un compto, oui, c'est une licorne.
Écoutez mille fois.
on l'a entendu, on l'a vu, on a tous eu en entretien des gens qui arrivent effectivement pas très bien préparés sur la motivation. Et la motivation, en fait, je la remarque beaucoup par la curiosité. Et en fait, est-ce que les gens, ils se sont documentés? Est-ce qu'ils ont regardé? Est-ce qu'ils ont écouté un podcast sur compto? Est-ce qu'ils ont lu les derniers articles de presse? Et en fait, est-ce qu'ils sont préparés? Et en fait, à travers ça, je vois plein de choses. Je vois la curiosité, je vois la préparation, je vois le degré de maturité. Les gens, est-ce que les candidats, ils sont là plutôt en touriste ou au contraire, ils sont vraiment sérieux? Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est pour moi, évidemment, c'est le premier, on va dire, le premier cut. Le deuxième, c'est je suis très attentif à la capacité qu'ont les gens à réfléchir sur eux-mêmes et leur propre parcours. De mon point de vue, c'est le signe d'une maturité un peu supérieure à la normale. C'est-à-dire d'être capable de dire pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi je suis devant toi. C'est un peu lié à la motivation, mais pas que pour le job, mais même globalement dans mon parcours, pourquoi ça fait du sens. Mon parcours, pourquoi je l'ai fait comme ça, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre là, ce à quoi je suis attentif, comment je veux construire ma carrière. Enfin, des gens qui réfléchissent et qui agissent. En fait, s'ils sont là, c'est qu'ils ont réfléchi, du coup, ils ont envie de bouger, et donc ils sont là, donc ils sont à la fois dans la réflexion et dans l'action. Donc, il faut essayer de trouver les deux. Je pense, pour moi, ça, c'est le deuxième critère super important. Et puis, le troisième, c'est comprendre un peu ce biais pour l'action et cette capacité d'agir vite, de tester, de, d'essayer des choses, de se planter, puis de se relever. C'est, et là, du coup, moi, j'ai toujours posé plein de questions sur, tiens, mais raconte-moi une situation où tu as fait ça ou ça, où tu t'es retrouvé, ou tiens, quel est le plus gros, question que j'aime bien, c'est toujours poser, parce que ça, je mets les gens toujours très mal à l'aise, c'est, raconte-moi le plus gros fuck-up dans ta carrière professionnelle jusqu'à présent. Et il y a des gens, c'est marrant, il y en a, et moi, pour moi, c'est un super test. Il y en a, ça va complètement les bloquer, ils vont dire, oh, voilà, parce qu'ils ont l'impression que dans l'entretien, c'est un endroit où, en fait, on doit se montrer sous son meilleur jour. On n'a pas de défaut en entretien, on est parfait, quoi. Alors qu'en fait, au contraire, moi, je cherche à déceler les gens qui sont capables d'avoir ce regard critique, qui n'ont pas honte, qui ont dit, bah voilà, oui, j'ai merdé, je me suis raté, pardon, excusez-moi. Et puis, voilà, j'ai appris, et puis, je la referai plus. Enfin, je veux dire un truc ultra bateau qui est, on apprend toujours plus de ses erreurs, mais c'est excessivement vrai. C'est-à-dire que c'est en voyant, en fait, c'est seulement en se rendant compte des conséquences de petites décisions qu'on a pu prendre qui n'ont pas marché comme on voulait, qu'on se dit, bah tiens, la prochaine fois, je ferai attention. Et c'est ça, l'expérience. L'expérience, c'est plutôt la somme de trucs pas trop réussis, pas trop bien réussis que de succès. Parce que les succès, on a toujours un peu de mal à dire, en fait, c'est exactement lié à quoi le succès. Alors qu'en revanche, quand ça rate, c'est assez facile en général de trouver d'où ça vient. Donc voilà, c'est trois grandes choses pour moi auxquelles je suis vraiment sensible. Évidemment, après, il faut un minimum de compétences techniques et ainsi de suite, mais ça va vraiment être surtout sur la motivation, l'attitude et puis cette capacité à réfléchir et agir.
Je trouve ça hyper vertueux d'apprendre à se connaître et d'apprendre à savoir qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous anime. Ça demande beaucoup de maturité et beaucoup d'empathie avec soi-même et aussi de ne pas cacher un peu la personne que nous sommes vraiment. Et de creuser comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde en fait. Hein. Et donc je comprends aussi, ça rend les gens extrêmement... Il y a des joyaux, les gens qui arrivent à se connaître et à dire comment ils sont tels qu'ils sont vraiment. Ah, c'est assez unique. Hein.
Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plus simple d'avoir ce type de... Ça, en tout cas, je ne pose pas la question de la même façon à un candidat de 40 ans qu'à un candidat de 25. Parce qu'en fait, aussi à 25 ans, je pense que je n'étais pas aussi self-aware que je le suis aujourd'hui. Je ne m'étais pas posé autant de questions. Donc, il y a des moyens détournés. Il faut être capable d'adapter ça. Mais effectivement, cette capacité à questionner, à se demander pourquoi, en fait, c'est un driver, je trouve, de performance professionnelle absolument gigantesque, quoi.
On va clôturer un peu par une petite question. Alors, parlons aussi un peu du produit Conto, parce qu'on l'a assez un peu abordé. Alors, moi, je suis client de chez Conto pour trois sociétés. Donc, j'aime beaucoup cet outil. Je trouve qu'il a créé quelque chose d'assez unique, en tout cas dans l'expérience bancaire. Pour ainsi dire, j'ai viré même ma banque normale, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça. Par contre, moi, je vois le marché un peu se durcir sur cette verticale. Tu vois, des boîtes comme Indie qui proposent des comptes pro gratuits. T'as Penny Lane qui vient de lever 40 millions, là, qui propose un compte pro gratuit dans l'offre. T'as Shine qui court peut-être un petit peu après Conto. C'est quoi ta lecture un peu du marché là? Comment tu vois les choses? Et comment vous allez aussi affronter ça?
Oui, c'est un marché qui est passionnant parce qu'il évolue, il évolue super vite. Alors globalement déjà, moi je trouve que la compétition et la concurrence c'est sain et c'est bien. Donc je suis ravi de voir qu'il y ait effectivement de plus en plus de maintenant concurrents qui avant étaient des... on va dire des partenaires ou des acteurs sur des champs un peu périphériques qui viennent en concurrence. Ça prouve que on a un modèle qui fonctionne, on a un marché qui est attirant et qu'on est sur le bon créneau et que les choses changent et que du coup le tout ce travail un petit peu d'évangélisation, de transformation, de digitalisation de la finance d'abord par les aspects compte pro, mais aussi sur toute la suite d'outils qu'on développe par ailleurs. En fait, elle commence à vraiment apporter ses fruits. On voit que le marché bouge. Donc moi, je trouve ça super. Effectivement, on voit une certaine convergence, en tout cas des modèles des différents acteurs. Donc on va avoir à la fois, si on va regarder la chaîne de valeur de, on va dire du compte bancaire et du cash jusqu'à la comptabilité, et puis ensuite on a tout un type d'acteurs au milieu. On va avoir ensuite la banque, le cash flow, la facturation, les solutions de facturation, de gestion de factures fournisseurs, les solutions de pré-comptabilité, de comptabilité. Donc on a toute cette chaîne de valeur entre qui va de la banque jusqu'à la compta. Et puis évidemment, chacun, il y a, je pense aujourd'hui, la thèse d'investissement, je pense, qui commence à être assez répandu dans le marché et auquel nous, on croit très fort chez Conto, parce que c'est ce qu'on a depuis le début. Hein. C'est cette convergence vers le tout en un, de se dire, en fait, pour les TPE et les PME, il y a tellement d'outils aujourd'hui que en fait, quand on est chef d'entreprise de TPE-PME, on n'a pas, premier admin, enfin personne administratif ou premier finance manager ou autre, on ne peut pas s'équiper de 30 outils différents. Et donc, on a l'existence, en tout cas la création d'un véritable outil tout en un, je pense que ça fait énormément de sens. De savoir se dire, bah, j'ai un tiers de confiance, une marque de confiance, c'est Conto, hein, évidemment, avec qui je peux faire à la fois mon compte pro, gérer ma facturation, payer mes factures fournisseurs, faire le lien avec mon comptable, faire toute ma pré-comptabilité, commencer à regarder les analytiques, pouvoir me sortir des PNL, faire ma gestion de trésorerie, échanger avec mon expert comptable, collecter les documents, déjà pré-approuver les factures, ainsi de suite. Ça fait énormément de sens, plutôt que de se dire, bah, je vais avoir un pour ça, une solution pour ça, une solution pour ci, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de convergence des modèles, effectivement, vers un modèle tout en un. Et puis, ensuite, oui, il y en a qui commencent à le faire de manière gratuite, parce qu'en fait, ils viennent pas de ce monde-là. Ils se rendent compte que c'est une proposition de valeur intéressante. Ils sont pas aujourd'hui connus pour ça. Et donc, forcément, il y a un besoin d'attirer des clients avec des offres commerciales qui sont intéressantes. Est-ce que c'est tenable à long terme? J'en sais rien. Et puis, l'avenir le dira. Mais c'est logique qu'ils soient un petit peu, que certains soient un petit peu plus agressifs de ce point de vue-là. Après, voilà, je pense qu'il y a une différence entre les acteurs qui ont développé cette compétence bancaire-là en interne, comme Conto. Donc, on a notre propre core banking system. On a tout développé nous-mêmes. Et puis d'autres acteurs qui vont s'appuyer sur des intermédiaires, des offres de banking as a service, qui se développent beaucoup, hein, effectivement. On voit de plus en plus de fintech qui lancent leurs propres offres grâce à ça, et qui permet un petit peu moins de flexibilité, en tout cas, et un petit peu moins de sur-mesure dans l'offre bancaire, et qui permet pas non plus exactement le même type de support client également, puisque vous avez un intermédiaire au milieu. Donc, nous, on croit très fort en notre modèle. Encore une fois, ça nous challenge de voir qu'il y a des concurrents qui rentrent sur le marché. Et je pense que globalement, la vision qui est d'aller vers des outils tout en un, je pense que c'est la vision qui fait du sens pour les clients. Donc, je trouve ça très bien.
Ouais, carrément. Déjà, je rejoins tout à fait ton analyse sur le fait que d'avoir 10 ou 30 outils différents pour gérer la partie tout, en fait, ça, c'est chiant. Et donc, c'est forcément plus facile d'avoir une espèce d'OS, tu vois, dans lequel tu vas graviter et dans lequel tu vas pouvoir traiter ce sujet de compta-gestion, parce que c'est très important dans les boîtes.
C'est vraiment notre mission, notre ambition, c'est justement cet operating system des TPE-PME chez Conto, absolument.
Bah du coup, on arrive à la fin de cet épisode, c'est vrai. Déjà, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange, c'était très cool. Je vais te poser une dernière question que je pose maintenant à tous mes invités. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose, que ce soit d'un point de vue perso, professionnel, que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres?
Ah ouais, bonne question. Ouais, enfin, j'ai eu la chance de, en tout cas, que pendant mes études, ma première partie de carrière, tout s'est globalement bien passé. Et j'ai jamais eu de trucs où c'était très dur. Récemment, en fait, quand on est dans ce monde-là, le monde de l'hypercroissance, tout va vite, on fait pas toujours tout bien, et puis il y a des trucs sur lesquels on se plante. Et au fond. Je dis pas que c'était une découverte à mon âge, hein, mais en tout cas de connaître ces situations un petit peu d'échec. On lit beaucoup, hein, sur ces sujets.
Ouais, oui, c'est clair.
L'échec, c'est pas grave. Il faut réussir à démystifier l'échec, et ainsi de suite. Et je me suis toujours dit, bah oui, ça me semble évident. Et au fond, ce à quoi j'arrive aujourd'hui, c'est de me dire, au fond, effectivement, l'échec, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de surréfléchir et de penser trop longtemps à ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, quels sont les éléments là où j'ai merdé. Et puis, en fait, c'est très, très, très facile de rester un petit peu paralysé à ce moment-là. Et donc, tu vois, pour revenir sur ce qu'on disait, sur cette acceptation de soi et de son échec, c'est se dire, bah, en fait, ça y est, c'est pas allé comme je voulais. Est-ce que quelqu'un est mort? Non, je suis toujours là. J'ai toujours mes deux bras, j'ai toujours mes deux jambes, j'ai toujours envie d'aller de l'avant. Maintenant, je mets ça derrière moi, j'apprends de ce truc-là et j'avance. Ça peut sembler très, très, très basique, hein, ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, c'est cette capacité juste à se dire, OK, c'est fait, c'est comme ça. Et maintenant, la personne que je suis, elle a ce truc-là en elle. Maintenant, j'arrête de retourner le truc dans tous les sens. Ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau. Et je ravance. Voilà. C'est quelque chose que j'ai internalisé vraiment récemment. Et je trouve assez puissant. Voilà. C'est ce petit truc-là que je veux partager et qui est, qui est mon dernier apprentissage.
Merci beaucoup, en tout cas, Séverin. Si les gens veulent te retrouver, je mettrai ton profil LinkedIn, naturellement, ceux qui veulent peut-être postuler chez Conto ou alors peut-être devenir client chez Conto, eh bien, je mettrai tous les éléments en description, sachant que je suis client et donc j'aime beaucoup cette solution, elle est hyper cool et franchement, j'ai essayé d'autres, hein, mais du coup, je suis resté chez vous, donc c'est pas pour rien. En tout cas, merci pour tout.
Merci Nicolas, merci de m'avoir invité, j'ai passé un très bon moment, je suis ravi d'avoir eu cet échange.
Génial, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant, j'espère qu'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris un plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller chercher vos amis et de les abonner de force au podcast Ligue des Chiffres, de mettre les avis 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça permet d'aller chercher des invités toujours aussi inspirants comme Séverin. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine, ciao.
Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions d'UNO qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.